Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette masterclass en compagnie d'Elena Treshtikova. C'est évidemment un des temps forts de la rétrospective que nous lui consacrons, qui vient de démarrer ce mercredi et qui propose tous les jours une séance gratuite et en ligne, et ce jusqu'au 12 février. Alors, une masterclass, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'une masterclass ? Une question tout à fait légitime. Auparavant, on a pu appeler cet exercice leçon de cinéma. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un dialogue à bâton rompu entre deux cinéastes. À Paris, Joël Farge, que vous voyez également sur l'écran. Joël Farge est un cinéaste, un producteur. Il a à son actif un grand nombre de films documentaires et c'est aussi un fin connaisseur du cinéaste tchèque. Il a notamment réalisé un film sur le cinéaste d'animation Jiří Trnka, dont on avait pu faire l'avant-première à la Cinémathèque du documentaire, cette fois-ci dans la grande salle du Centre Pompidou. C'était également un événement organisé en partenariat avec le Centre tchèque. Et puis, on a évidemment Elena Treshtikova, qui est bientôt, vous allez bientôt entendre en ligne. Et la troisième personne clé de cette leçon de cinéma, de cette masterclass, c'est effectivement Lada, qui va traduire les échanges entre Joël et Elena. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole tout simplement à Joël, qui va un petit peu vous expliquer la façon dont il a finalement connu le cinéma de Elena Treshtikova et quelle a été la façon dont il l'a accueilli, en fait.
Donc, bonjour à tout le monde. Dobrý den. Je voudrais vous dire, avant même de commencer, et je voudrais vous demander comment vous avez fait ces films avant même de... Pardonnez-moi, je recommence. Je voudrais vous dire, avant même de vous demander comment vous avez fait ces films et pourquoi vous les avez fait, que j'avais vu Marcella il y a quelques années, mais en tchèque. J'avais déjà été impressionné, mais grâce à la BPI, j'ai pu revoir une grande partie de vos films sous-titrés, et j'ai été très impressionné et vraiment profondément bouleversé. Vos films m'ont fait un peu penser aux œuvres romanesques de l'écrivaine canadienne Alice Munro et à l'écrivain américain Russell Bank, car vous nous racontez la vie d'êtres brisés qui ont en eux un feu intérieur, ce qui les rend si attachants. Vous leur donnez une dignité humaine alors qu'ils sont en pleine déchéance. Enfin, c'est une grande œuvre que vous avez entreprise et pour moi, elle est très exemplaire. Elle est aussi unique et nous verrons, je l'espère, pourquoi. La première question que j'aimerais vous poser est évidemment comment et pourquoi vous en êtes venu à fabriquer des films aussi long cours. Je rappelle que ces films sont souvent sur des périodes de 10, 12 ans, voire plus. Et comment vous avez procédé pour établir un lien aussi profond, aussi long avec ces êtres qui sont violemment asociaux et qui n'ont, pour René Kapka par exemple, aucune raison d'être au monde.
Já především děkuji moc Centre Pompidou za pozvání. Je to pro mě velká radost a čest.
Je remercie beaucoup le Centre Pompidou pour son invitation. C'est un honneur pour moi.
Zajímá Fermentasu. Od dětství jsem si psala deníky a zdálo se mi zajímavé, že deníky toho dne a pak, když si to čteme postupně, tak vidíme.
J'ai toujours été intéressée par le phénomène du temps. C'est quelque chose qui m'a intéressée depuis toute jeune. Et depuis toute jeune, j'ai eu mon journal intime. Et je me suis rendu compte que en relisant ces informations au fur et à mesure, on prend une autre notion du temps par rapport à ce qui peut être écrit dans un journal jour par jour.
Musela vlastně tu deníkovou metodu přenést do filmu. Nebylo to úplně jednoduché z produkční. To, když jsem začínala v roce 1980, tak to nikdo nedělal a byla k tomu lehká nedůvěra. Heslo je, že prostě všechno
J'ai décidé donc de transmettre cette méthode d'un journal intime dans le film. Et c'est vrai que c'était pas très facile parce que dans les années 80, quand j'ai commencé, j'étais parmi les premières, si c'était pas la première, et donc je sentais une certaine méfiance vis-à-vis de cette approche.
Pak ta první časozběrný projekt tedy a z toho pak vznikly dva filmy Marcela a Stanadovi, které můžete vidět. A pak jsem pokračovala dál v různých tématech.
Alors, mon premier document à long terme, c'était les études de couple. Les études de couple m'ont ensuite servi pour la réalisation de deux autres films, Marcela et l'Estrenade. Ensuite, j'ai continué avec d'autres projets.
Mezi mými rodiny jsou i z nejnižších sociálních vrstev, ale nikdy jsem neměla pocit, že bych měla dělat, které natáčím, se všemi jsem se snažila navázat co nejhlubší vztah a být s nimi tak to je základ věty. Nad nikoho se nepovyšovat a všechny brát jako své rovnováči.
Les protagonistes de mes films sont de couches sociales différentes. Souvent, c'est des gens qui vivent à la marge de la société. Mais pour moi, l'essentiel, c'était de les considérer comme égaux à moi-même. J'ai toujours voulu avoir une relation d'égal à égal avec eux, de ne pas me mettre au-dessus d'eux pour pouvoir garder leur confiance.
Je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent très intéressants et qui ne sont pas dans les questions que j'avais préparées, mais c'est la question du journal intime. Quand vous en parlez, ça me paraît effectivement dans votre démarche très important. Le journal intime, il revient avec Cosmos, par exemple, l'idée du journal intime. Et je me demande si René aussi, c'est pas son livre, n'est-il si c'est pas un journal intime. Et ça, je trouve que c'est une idée extrêmement forte dans votre cinéma, c'est que vous mélangez l'intimité de personnages avec la grande histoire, et en particulier la grande histoire de la République tchèque, enfin de l'ex-Tchécoslovaquie, à tel point que dans Cosmos, vous faites un parallèle avec la course à l'espace durant la guerre froide, c'est-à-dire entre l'Amérique, les États-Unis et l'URSS, sur la question de qui sera le premier à marcher sur la Lune. Et aussi, dans plusieurs films, vous mélangez des éléments qui sont apparemment extrêmement extérieurs à l'intimité de ces personnages, c'est-à-dire les élections des présidents, la chute du communisme, évidemment, et puis les élections des présidents de la République tchèque, c'est-à-dire Václav Havel, Klaus et les autres. Donc ça, je trouve ça très important. Et pourquoi vous mélangez ces deux points-là? La grande histoire et la petite histoire, si vous voulez.
Já rozumím. No, ten cíl je zachytit naši dobu. A to prostřednictvím jejich osudy samozřejmě určitě ty velké dějiny, které se dějí paralelně s jejich drobným.
Alors, mon objectif, c'est de percevoir le temps. De savoir ce qui se passe dans le temps. Il y a bien sûr l'environnement de nos protagonistes, leur vie à eux, mais celle-ci est influencée par ce qui se passe à l'extérieur d'eux, les événements qui les entourent.
A v soukromém vesmíru, kde mapujem život takové úplně obyčejné rodiny, tak tam jsem si říkala, že každý lidský život má takové dvě linky. Jedna je taková horizontála, to je jistota, a pak vertikála, to je nejistota. A když jsem přemýšlela o nějakých symbolech těchto dvou elementů, tak mě napadlo, že takovým symbolem teda té vertikály, té nejistoty je výzkum vesmíru, dobývání vesmíru a symbol toho, té horizontály, té jistoty je náš famózní zpěvák Karel Gott, který byl tomen v všech životech, ať se dělo, co se dělo a vždy na straně vítězů. Takže toto mělo takový jako smysl symbolu.
Alors, dans le film Cosmos Privé, nous suivons la vie d'une famille tout à fait ordinaire. Et je me suis dit que dans la vie de chaque personne, il y a deux lignes importantes. Une ligne horizontale, et moi je la considère comme la certitude dans la vie, et une ligne verticale qui pour moi signifie l'incertitude dans une vie. Et en cherchant les symboles pour ces lignes, je me suis dit que ce qui correspondait à cette ligne de l'incertitude, la ligne verticale, c'était cette découverte du cosmos et exploration du cosmos. Et la ligne horizontale, donc la ligne de la certitude, pour moi, dans notre contexte tchèque, c'était le chanteur, le fameux chanteur Karel Gott, celui de tout le monde, qui a toujours été présent dans la vie. Quel que soit le régime, quelles que soient les conditions, il a toujours été là et toujours du côté des vainqueurs.
Et je voudrais dire, enfin, pour les Français qui ne connaissent pas Karel Gott, c'est exactement un chanteur, c'est un enchanteur, si je peux jouer sur les mots. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait que la vie est toujours rose. Il a un côté Walt Disney, si vous voulez. Il enchante la vie, mais c'est très factice. Et ça se voit sur ce qu'il fait, c'est très factice. Mais je voudrais revenir à ce qui me semble aussi extrêmement intéressant chez Elena, c'est quand même qu'elle s'intéresse plus particulièrement au malheur des gens, c'est-à-dire à ce qui est leur mal-être, ce qui est leur malheur. C'est-à-dire, même dans une famille comme celle de Cosmos, qui est quand même, les parents sont extrêmement attachants, c'est vraiment la famille tchèque dans tout ce qu'elle a idéal, et il y a un garçon qui décroche. Chez les Strand, c'est la même chose. Il y a toujours un déraillement qui fait que les gens deviennent, enfin, certains éléments des familles, même les plus heureuses, finissent par décrocher. D'où lui vient ce goût pour le malheur des autres?
Já nevyhledávám konfliktní a těžké situace. Já točím to, co se děje nezávisle na mně, jak ten život jde a co z toho jsou moji protagonisté ochotni mi svěřit, tak s tím pracuju. A tak všichni víme, že v lidských životech nastávají občas různé konflikty, problémy a že možná i díky tomu, že to v těch mých filmech je zaznamenáno, tak se s tím mnoho lidí identifikuje, že jim to třeba v něčem připomene jejich životy. Nesnažím se z nikoho dolovat nějaká neštěstí. Zaznamenávám zcela svobodně, co řeknu.
Alors, je ne cherche pas les conflits et des situations difficiles et compliquées a priori. Je tourne ce qui se passe et j'enregistre ce qui arrive. Ce que les gens me confient, je le prends et je travaille avec. Et dans la vie de tout le monde, il y a un moment où arrivent des conflits ou des problèmes et j'enregistre ça dans mes films. Et c'est le principe de ma création, c'est-à-dire de rappeler à certains qui regardent mes films que c'est des choses qui leur arrivent aussi dans leur vie. Donc je ne recherche pas le malheur des gens, mais je prends ce qui arrive.
D'accord. Alors peut-être qu'on peut regarder un premier extrait précisément pour illustrer un petit peu ses propos. Nous allons voir quelques moments du film consacré à une famille qui n'est pas celle de Cosmos Privé, qui n'est pas les Kettner, mais ici on va regarder la famille Stranovi.
Možná tady by byl teď správný moment pro to, abychom si prohlídli první ukázku, která se týká rodiny Stranovích. Je to tedy rodina, o které jsme se před chvilkou už zmínili.
Alors peut-être qu'Elena pourrait nous préciser sur quelle durée ces images ont été collectées, ont été tournées.
No, tak to je dohromady 35 let. A novinka je, že v tom příběhu a pokračujeme v tom příběhu i nadále. Takže teď jsme natočili podobnou scénu před radnicí, kdy oni slaví 40. výročí svatby. A líbají se v rouškách.
Alors, ça a duré 35 ans, mais on a une petite nouveauté, c'est qu'on a repris et on continue, donc on fait la suite de la vie des Stranovi, et on vient justement de tourner une nouvelle scène devant la mairie de Prague, 40 ans après leur mariage, et sur cette scène, ils s'embrassent avec des masques.
Takže trošku je tam, pardon, jenom chci říct, že se vždycky snažím tam zachytit tu dobu, takže teď znamením doby jsou masky.
Comme je disais, je veux toujours avoir un fond de l'actualité derrière dans mes films, et donc aujourd'hui, ce qui symbolise notre temps, c'est les masques.
Je voudrais juste dire que, effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je sais bien que les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais il me semble que vous, Elena, vous avez quand même un talent pour dénicher dès le départ, des blessures invisibles. On a l'impression que vous avez la prescience de ces blessures invisibles qui vont finir par éclater et vous allez pouvoir nous les montrer. Et on a ce sentiment quand vous filmez que vous êtes là pour déceler des blessures invisibles et nous les révéler. Et à nous forcer à les regarder, parce que ça c'est aussi un point de votre œuvre qui me semble très important, c'est que quand on jette un œil sur le début d'un film, on le regarde jusqu'au bout. On n'a pas de moment où on se dit « bon, il faut s'en aller », on est absolument captivé. Et on est captivé non seulement parce que vous nous forcez à regarder des gens qu'on n'aurait pas vus nous-mêmes, ou que si on les avait rencontrés comme Kapka ou comme René dans la rue, à faire la mendicité, on n'aurait pas voulu les voir, soit on leur aurait donné un peu d'argent pour éviter de continuer à avoir une relation avec eux. Et je trouve que cette idée, ce talent que vous avez, il est dans ces deux choses, c'est-à-dire à la fois le talent que vous avez pour dénicher les blessures invisibles et nous forcer à les voir.
Katka a René jsou takové nehrodce. Jak se bude vyvíjet život tohoto, zachytila v léčebně, kde se rozhodla skoncovat s drogama a doufala jsem, že budem sledovat její uzdravení. U Reného téma, co udělá s člověkem, když je v tak mladém věku ve vězení. Nikdy jsem nevěděla, jak se ten jejich příběh bude vyvíjet, ale když už jsem se do toho zachycování jejich života pustila, tak musím točit to, co je nezávisle na tom, co bych si přála. To znamená, že ty příběhy, zrovna tyto, se nevyvíjely úplně pozitivně, ale mojí dokumentaristickou povinností je zachytit opravdu to, co je, ne to, co chci já.
C'est vrai que dans le cas de Katka et de René, c'était deux personnalités assez extrêmes, je dirais. Et je ne savais pas au début comment la situation allait évoluer et ce qui allait se passer. Dans le cas de Katka, elle se trouve très jeune dans un centre pour jeunes toxicomanes qui souhaitent arrêter. Et moi aussi, j'espérais que le chemin qu'elle prenait l'amènerait à arrêter de se droguer. Dans le cas de René, le thème était un petit peu différent et la question était celle de se demander ce que peut faire d'une personne jeune une incarcération précoce. Donc, que devient une personne jeune lorsqu'elle est incarcérée? Et je ne savais pas non plus ce qu'il allait devenir. Mais puisque j'ai commencé à filmer, il faut que je continue, quoi qu'il se passe. Et je dois continuer à filmer, même des choses que je n'avais pas prévues. Et même si les choses n'évoluent pas de manière positive comme je l'aurais espéré.
Oui, mais est-ce que finalement, dans son travail, elle prend beaucoup de personnages et finalement, au fur et à mesure, elle en sélectionne quelques-uns et elle en, disons qu'elle en abandonne d'autres parce que finalement, ils ont une vie sans histoire. Comment fait-elle? Parce que c'est, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'elle a un talent pour trouver la bonne personne sur un long temps, en fait, en réalité, dont l'histoire va être absolument extraordinaire, très, très révélatrice de notre société, de nos sociétés.
U Reného to bylo tak, že jsme točili s pěti mladými vězni 5 let a natočili jsme tedy 5 filmů, které byly pak uvedeny a na konci tohoto natáčení René vykradl, což byla nečekaná. Najednou připadalo, že to je tak neobvyklý čin, že by stávat dál. Jsem hodla pak sledovat dál z těch lidí, který je vlastně chytrý člověk a přišlo mi vidět i nadále zajímavě.
Alors pour René, par exemple, nous avons commencé à tourner avec 5 prisonniers pendant 5 ans et nous avons donc tourné 5 films. Ces films ont été diffusés et à la fin, René nous a cambriolés. Et je me suis dit que c'était quelque chose de tellement extraordinaire et tellement incroyable que ça méritait d'être poursuivi. Et donc du coup, on s'est mis à enchaîner et à continuer le tournage avec René. Et donc, de ces 5 personnes, c'est lui que j'ai continué à suivre. Et c'est vrai que René est quelqu'un de particulièrement intelligent.
Alors, peut-être justement, on peut regarder un extrait, peut-être, ou Joël.
Je passerai à un autre thème après. Donc, montrons l'extrait de René, si c'est, puisqu'on parle de ça, ça montrera aux spectateurs combien... Elena arrive à établir un lien avec un personnage qui est absolument réfractaire à tout et qui est d'une intelligence diabolique et c'est ça qui est fascinant chez lui et je trouve que l'extrait que vous avez choisi le montre bien. Alors l'extrait est particulièrement extraordinaire parce qu'il parle du lien que vous établissez avec tous vos personnages ou toutes vos personnes, je ne sais pas comment les appeler. Effectivement, elles sont toutes, pour beaucoup en tout cas, réfractaires à l'ordre, à l'expansion sentimentale, etc. Et là, on a un personnage qui, au contraire, vous demande plus de liens. Je voudrais vous demander, à ce propos du lien que vous avez avec ces personnes, d'abord, vous tournez avec une équipe. Vous ne tournez pas ce qu'on pourrait imaginer vous seul avec une caméra. Vous avez une équipe. Donc, je me demande si cette équipe, caméraman plus un ingénieur du son, ne vous met pas dans une bonne distance par rapport à distance affective avec ces personnages. Vous faites votre travail et vous faites un film. Et j'ai l'impression que ceux qui sont filmés sont conscients de ce que vous leur demandez. Et je me demande si c'est finalement cette conscience n'est pas un peu la clé qui va leur donner une certaine dignité, d'autant que les personnages sont vus à la télévision ensuite. C'est cette conscience qu'ils ont de ce qu'ils font avec vous leur donne pas cette dignité et leur permet d'être extrêmement sincères avec vous et à aller très loin dans la révélation de ce qu'ils sont.
Tak, důvěra je naprosto zásadní. Kdy bych netočila něco, co by moji protagonisté nechtěli, nikdy bych je nepřekvapovala skrytou kamerou. Když je film hotov, tak oni mají možnost autorizace. A ono u těchto časozběrných filmů ten vztah je tak dlouhodobý, že opravdu vztah než normálně u běžného dokumentu, který se točí nějakou kratší dobu, proto společně už zažili to. Ty to vždycky říkáme, že jsme navzájem součástí svého života. René je součást života jeho a tak to platí i u ostatních protagonistů.
La confiance, c'est la chose la plus importante dans mon travail. Je ne tourne jamais ce qu'ils ne veulent pas qu'il soit tourné, je ne les surprends pas et je ne fais pas de caméra cachée. Et lorsque le film est terminé, je leur propose, je leur montre pour avoir leur autorisation. Et plus particulièrement dans ces documentaires de longue durée, cette confiance est extrêmement importante. Notre relation est très longue, beaucoup plus longue que dans un documentaire classique qui, logiquement, est plus court. Et je dis toujours que nous faisons partie de nos vies les uns des autres. Moi, je fais partie de la leur et eux, ils font partie de la mienne.
Est-ce que le fait que vous soyez une femme ne favorise pas justement ce lien? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement vous êtes favorisée par le fait que vous soyez une femme et qu'un homme ne pourrait pas obtenir ce que vous obtenez?
Tohle fakt je, že já točím i filmy o ženách, takže takhle úplně asi vyhrocené to není, no ale tak možná, že u Reného se dá říct, že trošku hledal matku. Mm-hmm.
Alors, je filme également des films sur des femmes, donc c'est peut-être pas uniquement cet aspect-là qui joue, mais concrètement, dans le cas de René, moi, je pense que inconsciemment, il cherchait un petit peu sa mère, en fait.
Oui, mais c'est ce qui rend le film très impressionnant, mais on a la même chose avec Annie. Il y a tout d'un coup une demande d'affection. Qui doit quand même poser des problèmes à un moment donné, parce que chez René, c'est assez évident, il dit d'ailleurs, j'ai vu ma mère 6 fois en 10 ans, je vous ai vu, vous, 10 fois plus. Et donc, comment elle peut répondre? Comment elle gère ce lien? Parce qu'il y a un transfert, je dirais que dans plusieurs films, on sent, même dans Les Strandes ou dans d'autres films, dans Kafka, il y a des transferts, on le sent au sens psychanalytique. C'est tout d'un coup, ces gens qui n'ont plus rien, ils se rattachent et ils transfèrent leurs problèmes sur Elena. Donc, comment elle gère ce lien, ce transfert? Parce qu'il y a un moment donné, il faut y répondre. Ils sont dans une détresse telle qu'elle ne peut pas rester indifférente.
Myslím si, že všichni ti hrdinové jsou rádi, že se můžou někomu vypovídat, že to možná je něco, co jim trošku chybí a já jsem ten, kdo naslouchá. A druhá věc je pomoc jim, o kterou se samozřejmě snažím, ale ten film není o mně a o tom, jak někomu pomáhám. Ten film je o těch lidech, čili jestli já jim pomáhám nějak finančně nebo i, nevím, organizačně, tak to je mimo natáčení. Není to o mě jako o nějaké charitativní ženě, ale jsou to jejich příběhy.
Mm-hmm. Alors, bien sûr, ces gens-là sont tous contents d'avoir quelqu'un à qui parler. Ça leur manque. Et donc, moi, je les écoute. Mais bien sûr, j'essaye de les aider. Par contre, le film, c'est pas un film sur moi qui aide ces personnes, c'est un film qui parle de ces personnages-là. Et si moi je les aide, quelle que soit la façon comment je les aide, ça se passe en dehors du tournage et je ne veux pas qu'on me voie moi comme une personne charitable qui vient aider ces personnages.
A ještě Jestli můžu k tomu jednu poznámku, například u Reného se mi podařilo s tím, že vydali jeho text, který mě dal a který mi přišel zajímavý, tři knihy, a vlastně tím on jakoby našel úplně svou novou identitu. Vlastně dokonce i ten film mu pomáhá, protože my teda s ním točí 12 let na svobodě a vyskytne se tam několik žen, viděli film a díky tomu filmu se do Reného zamilovali. Tak a s jednou z nich je padá to národní vztah.
Par exemple, dans le cas de René, j'ai réussi à proposer son manuscrit qu'il a écrit en prison et de proposer donc ce manuscrit à une maison d'édition qui a fini par publier 3 de ses livres. Et grâce à ça, je pense qu'il a pu trouver ou retrouver son identité et une raison de vivre. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Ce qui l'a beaucoup aidé aussi, c'était le film lui-même. Nous continuons donc le tournage pour la suite de son aventure. Aujourd'hui, il est en liberté. Et grâce à ce film, il est très admiré. Donc, il a eu plusieurs femmes. Il est sorti avec plusieurs dames. Il a été amoureux. Et aujourd'hui, il est toujours avec l'une de ces dames. Et je pense que c'est une relation sérieuse.
Oui, mais dans l'histoire de Kafka, c'est un problème. La fin du film et la fin du film, les tout derniers moments du film sont absolument déchirants. Donc, Elena se retrouve d'un côté de la frontière, d'une certaine frontière qu'elle trace, et les personnages qu'elle filme sont de l'autre côté de la frontière. Donc, mais je ne mets pas en. Je pense qu'elle crée une empathie très particulière. Et je crois que cette empathie et cette possibilité qu'elle a de filmer, c'est qu'elle délimite très précisément quelle est sa fonction, quel est son travail, ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé de transfert au sens analytique. Le psychanalyste, après tout, il est dans son fauteuil et l'analysé, il est sur son divan. Et les places sont extrêmement précises. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce que Elena fait, c'est-à-dire que chaque personnage est à sa place, là, dans sa vie. Et il n'y a pas tout d'un coup de confusion, de malentendu ou des choses comme ça. C'est pour ça que je voulais savoir si techniquement le fait qu'elle ait une équipe avec elle ne l'aidait pas à garder sa place de réalisatrice.
Vždycky jsme ve třech. A jasný je, že tím pravidla a chci říct, ale že já se s mými hrdiny setkávám i mimo natáčení, takže já vždycky jenom s kamerou. A myslím si, že ten vztah je daný. Ve všech případech, o kterých mluvíme, je to vlastně pokračování, navázání na nějaký film, který už byl uveden, tak všechny další. A tím pádem ti moji protagonisté už zažili to, že jejich příběh byl nějak prezentován. A už zjistili, co to je, jaká je to zpětná vazba a co to obnáší. A přesto byli ochotni, mě samozřejmě vždycky hrozně potěšilo. A jinak ta pozice je, že asi nelze to nějak měnit, nikdy bych nedokázala točit jenom sama, jako dělat kameru. Tato trojice možná přesně jak říkáte, tím jaksi bez slov ten vztah a tu pozně a jich. Režisérky, která má za sebou vždycky ten tým plus jich, kteří jsou před kamerou. Ale zatím s tím nikdo neměl problémy.
Alors c'est vrai que nous sommes toujours à 3 et donc les règles sont claires et notre fonctionnement est rodé. ce que je voudrais dire aussi, c'est que je rencontre mes protagonistes assez régulièrement également en dehors des tournages. Donc, nous avons un lien continu, nous échangeons de ce qui se passe, quelles sont les nouvelles également en dehors du tournage. Donc, notre relation est étroite, elle est donnée. On se connaît dans avec tous les personnages, tous les protagonistes avec lesquels nous tournons actuellement. Ce sont des gens qui me connaissent déjà, puisque tous les films que je fais actuellement, ce sont des suites de travaux ou de films que nous avons déjà tournés précédemment. Donc, ces gens me connaissent. Ils ont déjà eu l'expérience souvent dans la diffusion du film. Donc, ils savent ce que ça veut dire, ils savent ce que ça représente. Et malgré tout ça, ils ont été d'accord de continuer, donc ce qui me réjouit beaucoup et j'apprécie cette confiance. Donc c'est vrai que le fonctionnement à trois, c'est quelque chose qui marche et je ne suis pas prête à le changer. Et vous avez peut-être raison que c'est quelque chose qui m'aide à bien savoir où est ma place. Mais je ne voudrais pas travailler toute seule, juste moi et ma caméra, parce que avec l'équipe, ça fonctionne très bien.
Mais je pense que c'est la clé du cinéma que fait Elena, cette équipe. C'est une clé. C'est pas qu'elle se cache derrière l'équipe, mais ça lui permet d'avoir la bonne place. Je voudrais juste lui poser une question en continuité de cette relation qu'elle a avec les gens qu'elle filme. On m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, elle va nous le confirmer ou au contraire me contredire. C'est de savoir si elle a un lien financier, c'est-à-dire que chaque personne interrogée est rémunérée pour sa prestation par jour, ce qui est pour moi une question. Je ne sais pas si c'est vrai, donc j'aimerais qu'elle me le confirme. Et si c'est le cas, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de cela.
Mě lehce kontroverzní téma a občas jsem například peníze na drogy, ale je to tak, že já platím úplně, nebo já jsem hrdinům, s kterými natáčíme ze všech sociálních vrstev a zhruba to též je to asi tak 1500 korun, to nevím, jako jestli to lze převést na euro. A je to vlastně takové poděkování za to. A ta představa, že kdybych Katce nedala peníze, tedy koupí drogy, takže by ten den ty drogy nebrala, je nesmyslná. Ona by prostě šla někam, že jí dám peníze, tak vlastně zabráním nějaký asociální činnosti, že náhodou má ty peníze legálně vydělané. A já si myslím, že to je prostě taková slušnost protagonistům, že my v nich něco chceme, byli někde, se s námi setkali, oni nám věnují svůj čas a my i tyhle peníze, které nejsou nějak velký. Já to opravdu beru jako spíš takový symbol.
Alors effectivement, la question de l'argent peut être un sujet un petit peu controversé. Et c'est vrai que je me suis fait dire que je donnais de l'argent à Katka pour qu'elle achète des drogues, par exemple. Mais je dois dire que je donne une somme symbolique pour un jour de tournage et c'est toujours la même somme à tout le monde, quel que soit leur milieu ou social, je leur donne toujours 1500 couronnes, ce qui est à peu près 50 euros. Et pour moi, c'est une façon de les remercier pour le temps qu'ils ont passé avec nous, qu'ils nous ont consacré. Et pour Katka, par exemple, si je lui donnais pas cet argent-là, de toute façon, elle irait ailleurs et elle trouverait son argent par un moyen ou un autre. Et je pense que ce serait par des moyens, je dirais, un petit peu asociaux qu'elle le ferait. Donc, comme ça, au moins, l'argent qu'elle gagne c'est de l'argent légal. Et au moins, elle ne va pas faire quelque chose de répréhensible. Je trouve que c'est une politesse de base que de leur donner de l'argent pour ce temps qu'ils nous ont consacré. Et ce n'est pas beaucoup d'argent, en fait, entre nous. Hein. C'est c'est surtout symbolique.
Je voudrais dire à Elena que je suis totalement d'accord avec sa méthode, que je trouve que c'est la bonne méthode. Je trouve des fois très agaçant de voir des réalisateurs ou des réalisatrices qui, au contraire, sont choqués par le fait qu'on donne un salaire, même s'il est minimum, qu'on donne un salaire à quelqu'un qui, finalement, travaille pour nous. Pour moi, c'est une règle. Je l'ai expérimenté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont très hostiles avec mon sentiment, mais je lui donne 100% raison. Et ça, on va traduire l'ADA, et après peut-être qu'on peut montrer l'extrait sur Kapka. On comprendra encore mieux quelle est la situation et la situation à laquelle est confrontée Elena.
Alors si Elena n'a pas de réaction, on va effectivement découvrir un petit montage qui rend compte de cette situation à travers le film Kapka.
Donc, puisqu'il y a dans l'extrait que nous venons de voir un accouchement, et qu'il y a plusieurs accouchements dans plusieurs des films de Elena, je voudrais lui poser la question suivante. C'est que nous avons, nous, spectateurs de ces films, l'impression qu'elle est toujours là, au bon moment, et à la bonne distance, mais j'ai déjà dit, mais surtout au bon moment, et donc et qu'elle est toujours dans la bonne position par rapport à ces personnages, comme disait le photographe Kappa, elle est toujours assez près pour qu'on soit avec les personnages. Mais là, on a l'impression que finalement que le film est très homogène, qu'elle a toujours été là dans la vie de ces gens-là, au bon moment, au bon instant, ce qui ne doit pas être dans la réalité le cas. Comment elle ne filme que des fragments de vie? Mais nous avons, nous, l'impression que c'est extrêmement homogène, que c'est écrit presque comme un scénario, si je peux dire. Comment elle fait pour donner cette homogénéité à ces films qui sont pourtant filmés sur des temps si longs, etc. Comment elle fait? Parce que là, elle a un secret tout à fait extraordinaire.
Alors, scénář rozhodně napsán není. Já vždycky říkám takovou flosku, že ten film mi píše život sám, ale jenom já sama vím, co všechno se nepodařilo natočit a mohlo by být zajímavé. A ta snaha je prostě zachytit to tak, jak to je. A já tady u tohohle toho filmu jsem si tak strašně přála, aby to končilo jinak, aby Katka v momentě, kdy se narodí dohromady, jako já jako docela proto já, prostě bohužel ta je taková. A jenom ještě bych chtěla říct, je samozřejmě také na k tématu etika natáčení, že třeba v tom, jak Katka je na té půdě a vypadá úplně šíleně, tak to bylo ale předem domluvené natáčení, kdy my čili to, že tam přišlo, tak pro mě, ale ona o tom nevěděla, nebylo to nějaký náhodný setka z toho, jak hrozně vypadá.
Alors, en tout cas, y a pas de scénario écrit à l'avance, ça c'est clair. Et je dis toujours un cliché que c'est la vie qui écrit mes films, en fait. Et je sais aussi ce qui s'est passé et ce qui n'a pas pu être tourné. Mon objectif, c'est d'enregistrer ou de capter la vie telle qu'elle avance. Dans le cas de 4K, je vous assure que j'aurais voulu et j'ai tellement souhaité que le film se termine autrement, que l'issue soit positive. J'espérais que une fois qu'elle aurait accouché, qu'elle se remettrait en question et que ce serait comme une révélation pour elle pour arrêter de se droguer. Et j'en ai beaucoup souffert, moi aussi, que ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, la réalité, elle est telle qu'elle est. Et juste un petit mot aussi par rapport à l'éthique du réalisateur. on pourrait se dire que lorsque on interview 4K dans un taudis, en fait, sur le grenier d'un immeuble délabré, elle a une mine horrible. Mais c'était un rendez-vous qui était prévu à l'avance. Elle savait qu'on allait venir. Mais malgré ça, elle était dans un état pas possible. On s'est demandé est-ce qu'on allait ou pas inclure cette scène dans le film. Mais c'était comme ça, c'était la vérité. Elle savait qu'on venait, donc voilà, on l'a mis, mais elle avait une mine terrible.
Mais je confirme mon point de vue, qui est que la position d'Elena, c'est une position de réalisatrice. Ce n'est pas une assistante sociale, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas. Elle est réalisatrice et elle est là pour faire un film. Et là, je trouve qu'elle a quelque chose de très fort parce qu'elle nous communique la vérité de Kapka bien mieux que je ne sais pas qui. Donc, elle est dans une position claire. Ça, pour moi, c'est très important et c'est ce qui fait la valeur de son travail. Après, que Kapka finisse mal, ça, c'est le problème de Kapka, c'est pas le problème de Léna, d'une certaine manière. C'est pour ça que je trouve que ce qu'elle montre de ces gens, c'est d'une grande dignité. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, elle communique aussi leur feu intérieur, leur désarroi. Et ça, pour moi, c'est son travail, et le travail d'Elena, c'est d'être réalisatrice. Et je trouve que c'est une bonne position et elle obtient beaucoup plus de ces gens-là que si, au contraire, qu'elle mélangeait toutes les fonctions.
Ale já jenom k tomu dodám, že já jsem se snažila vždycky chce pomoct, třeba sehnat ubytovnu, ale tam podmínka byla, že nebude fetovat a to ona nebyla ochotná dodržet. Takže nakonec vždycky to dospělo k tomu, že jsem řekla, můžu se snažit pomáhat jakkoliv, ale nemůžu za ní přestat fetovat. Mm-hmm. To je ten problém.
Je voudrais juste rajouter que j'ai essayé de nombreuses fois d'aider Kapka. Je lui ai trouvé un centre d'hébergement qui pourrait l'accueillir, mais la condition, c'était qu'elle arrête de se droguer. Et malheureusement, elle a pas tenu, elle a pas respecté cette condition. Et comme je dis, je peux aider, je peux tout faire pour l'aider, mais il y a des choses que je peux pas faire à sa place.
Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est important cette lucidité qu'a Elena. C'est très important parce que beaucoup de gens peuvent nous reprocher. J'ai eu le même cas de figure où j'ai filmé des enfants pendant des mois et des mois aux Philippines et à un moment donné, étant français et réalisateur, il a fallu que je rentre. Donc, je partage son point de vue, oui. Bon, je voudrais continuer sur sa relation avec les personnages qu'elle a, et ensuite on passera peut-être à un autre thème. Mais je voudrais chacun des personnages ou beaucoup de ces personnages font écho à des traumas qu'ils ont eus enfants. Kapka, par exemple, puisqu'on parle d'elle, elle laisse entendre qu'elle aurait pu être violentée, voire violée par son beau-père. Beaucoup de ces personnages, Annie aussi semble avoir eu une enfance extrêmement malheureuse. En même temps, ces personnages en parlent, mais de façon très brève. Est-ce qu'elle n'a jamais eu envie de creuser cette question des traumas d'enfance qui semblent les perturber de façon très importante?
Je zajímavé téma, ono je tam naznačeno, je hrozně myslím, že to je a nechtějí říct, to se nedozvím a samozřejmě nemůžu nikde pátrat v jejich oko, tím bych porušila takovou tu jaksi jako ten cit, že prostě jsme otevřený vztah a ne, že já jsem nějaký vyšetřovatel, který někde něco zkoumá za jejich zády, to by bylo hrozně blbý. Můžu vycházet jenom z toho, co se dozvím, oni řeknou. A když to je choulostivé téma, tak prostě ho nemůžu příliš rozebírat.
Oui, effectivement, c'est très intéressant d'essayer d'ouvrir cette question de leur jeunesse. Mais c'est vrai aussi que ce qu'ils ne veulent pas me dire, ils ne me diront pas. Je ne vais pas les pousser et les forcer à me dire ce qu'ils ne veulent pas. Je ne vais pas non plus aller chercher dans leur entourage et mener des enquêtes comme un journaliste ou comme une investigation parce que je briserais cette confiance et cette relation qu'on a entre nous qui est justement basée sur l'ouverture qu'on a et sur ce qui me confie. Donc je ne peux pas aller chercher des choses derrière leur dos. Et lorsqu'il s'agit d'un thème sensible, je dois respecter leur décision et je ne vais pas fouiller plus loin.
Elena a raison de dire qu'elle n'est pas journaliste. Elle est exactement à l'opposé du journalisme. On est bien d'accord. Ça, c'est une question très importante, effectivement. Et ce qui fait la qualité de son cinéma, c'est justement de ne pas être journaliste d'une certaine manière. Pardon pour les journalistes, mais ils ont une immédiateté, une volonté d'investigation qui n'est pas du tout dans sa morale. Et simplement, il lui arrive tout de même des fois d'intervenir avec sa voix extrêmement douce pour poser des questions. Donc on pourrait imaginer qu'à un moment donné, quand un personnage fait un écho à ça, qu'elle puisse revenir sur la question. Mais je comprends sa position, j'ai pas de problème avec ça. Et je voudrais, enfin si Julien est d'accord, je voudrais changer de thème, nous orienter vers ces problèmes de production et la réception de ces films dans la société tchèque. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ces relations avec les personnages qu'elle filme pendant si longtemps. Je pense qu'elle a répondu à la question de ce lien qui est très particulier qu'elle sait établir. Est-ce qu'on peut changer de thème, Julien, ou on peut continuer?
Oui, absolument.
Je pense qu'on a assez. De toute façon, j'invite les spectateurs à aller voir ces films parce qu'on pourra constater ce lien avec l'intensité extraordinaire que ces liens ont entre le filmé et le filmeur ou la filmeuse. Et je pense que les films parlent d'eux-mêmes. Donc, je voudrais dire une chose qui, pour un réalisateur français, est étonnante, c'est la relation qu'Elena a avec la télévision tchèque. C'est-à-dire que la télévision tchèque, depuis très longtemps, depuis les années 80, à la fin des années 80, ont tissé avec elle une relation qui permet la production de ce type de film. Et ça, c'est quelque chose pour un Français qui est très extraordinaire, parce que nous n'avons pas d'équivalent. Les chaînes seraient aujourd'hui françaises, seraient bien incapables et ne voudraient pas montrer de tels films et de tisser depuis si longtemps ce type de relation entre les Tchèques, la télévision et Elena. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me paraît très intéressant et j'aimerais qu'elle me parle de sa relation avec la télévision tchèque très particulière.
No tak, to kdybyste mohli napsat do české televize, že to je úžasný a že by to ve Francii nebylo možný, tak to by věci velmi pomohlo. To je za prvé.
Je suis très contente et je pense que si vous pouviez dire ça à la télé tchèque, ce serait super et surtout dire que ce serait quelque chose de difficilement réalisable en France, je pense que ça pourrait aider ma cause.
Mais je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit avant-hier. Il y a quelques jours, je l'ai dit à Elena Mulerova, j'ai dit exactement ça. J'ai dit que j'étais très, 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 très surpris par la qualité et la densité des œuvres. Et j'ai dit comment une chaîne de télévision française pourrait faire ça, ça n'existe pas. Alors aussi, ce qu'on peut dire pour la petite anecdote, c'est que Elena, elle a été nommée ministre de la Culture. Elle n'est pas restée très longtemps, mais elle a été nommée ministre de la Culture. Donc, on imagine en France quelqu'un comme Elena nommé ministre de la Culture. Je ne sais pas, Nicolas Philibert, par exemple, comme ministre de la Culture, chez nous, ça ferait quand même beaucoup de tapage. Ce serait tout à fait, ça nous paraîtrait tout à fait extraordinaire. Donc, je veux dire que la télévision tchèque, effectivement, est quand même, de mon point de vue, extrêmement derrière elle.
No, děkuji, já to tam budu hodně říkat taky. Ještě Alena Millerová, tak dalším. Ne, tak ty začátky byly těžké, protože všechno atypické je složité prosadit, to je jasný. A to třeba mělo nějaké výsledky, ale zřejmě je někdy trochu složitý, ale ne, běží to, všechno běží, trvá dlouho, když chceme jako něco dalšího rozjet, tak podáme žádost a než se to, ale tak už jsme zvyklí, že i točíme za vlastní peníze a doufáme, že se to pak i podaří. Ne, děkuju České televizi, jako jsou vstřícní. Ale začátky teda byly hrozně těžké, to vám musím říct, že kala, že to možná už kdy ta idea nepovede, no, ale tlačila jsem hrozně.
Je suis désolée, je n'ai vraiment pas entendu beaucoup de ce qui vient d'être dit, mais en tout cas, donc les débuts de mon travail avec la télévision étaient vraiment durs parce que c'était quelque chose de complètement nouveau que personne ne connaissait. Mon approche était nouvelle au début, et donc je craignais ne pas pouvoir réaliser de films avec eux. Mais voilà, j'ai insisté et nous avons quand même réussi à bien travailler ensemble.
Mais quelle est la réception? Est-ce qu'elle peut nous parler de la réception de ces films par la société tchèque, sachant que pendant la période communiste, c'est rappelé dans le film Annie, les gens avaient une sorte de rejet de ce qu'ils appelaient les parasites. Et aujourd'hui, la société tchèque, disons, capitaliste, disons, pour s'opposer à la société communiste d'avant, ne dit pas aussi clairement son rejet, mais finalement, ça revient au même. Donc, je voudrais savoir comment ces films sont reçus par les spectateurs tchèques.
Tak já bych to zopakovala ještě jednou.
Jo, já tomu rozumím. Ne, rozumím. No, musím říct, že takový ten opovržlivý vztah dokážu soudit, jaké procento lidí je považuje za povrhuje jimi, ale určitě takový jsou. Nový fenomén jsou sociální sítě. Leckdy dozvíš ani vědět názory a myslím si, že to je takový to některé jaksi stránky lidí pro příležitost projevit, ale zároveň ty filmy a dobrovolnost v kinech byla celkem rekord a když si jako brát spíš to pozitivní, abych nebyla úplně frustrovaná, v jaké společnosti tu žiju, ale občas se objeví teda příspěvky odsuzující.
Effectivement, tout ce qui concerne votre question sur un mépris d'une partie de la population vis-à-vis de ses protagonistes, je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage de gens qui méprisent ces protagonistes ou ce type de population, mais bien sûr, il y en a, comme partout. Je dois dire que le public tchèque accueille très bien mes films. J'en suis très contente. Par exemple, le film 4K a eu une fréquentation record dans les salles de cinéma. Le film a été très bien accueilli également à la télévision, lorsque la télévision l'a diffusé. Je ne connais pas exactement les données de l'audiomap, mais en tout cas, la réception est bonne. Un autre phénomène que nous connaissons tous, c'est les réseaux sociaux dans lesquels on découvre de temps en temps des opinions dont on se serait passé. Ça donne la possibilité à certains de s'exprimer et dire des choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de dire ailleurs et dans d'autres circonstances. Donc, j'essaie toujours de prendre ce qu'il y a de plus positif et de rester positive et de ne pas ventiler cette mauvaise foi ou cette méchanceté, mais ça c'est des choses que nous connaissons tous de partout.
Alors, ce que je voulais dire c'est sur la réception de ces films, c'est que j'ai l'impression, je connais un peu la société tchèque pour travailler assez régulièrement à Prague, pour savoir que quand même une majorité reçoit ce film avec empathie. Et alors qu'au départ, si vous voulez, dans la société communiste, il y avait un grand dédain pour les parasites. Et aujourd'hui, il y a effectivement, la situation est totalement différente. Mais tout de même, je vois dans la société tchèque une empathie pour ces personnages qui sont un peu marginaux. Il n'y a pas de rejet violent, systématique, comme on peut trouver dans certains autres pays, aux États-Unis par exemple. Donc là, il y a une empathie. Et je sais que ces films sont très bien accueillis, sont vus en grand nombre. Et ça, j'en suis tout à fait, on m'en a parlé souvent, et ça, je le sais. Mais en définitive, s'ils sont prévus, est-ce qu'ils posent une question plus générale, c'est-à-dire une question politique ? Est-ce que, par exemple, au niveau des gouvernements, au niveau même ou de la mairie de Prague, parce que c'est des gouvernements assez différents, enfin, c'est un des pouvoirs assez différents, est-ce qu'il y a une réponse sociale et une réponse politique qui serait induite par la diffusion de ces films ?
Takhle, jako, jestli můžou jako úplně konkrétně pomoct.
Vous voulez dire, par exemple, est-ce qu'ils peuvent vraiment concrètement aider dans certains cas?
Oui, je pense que si, par exemple, on avait des films comme ça à la télévision française, la question de que fait le gouvernement se poserait extrêmement vite. Nous avons en France beaucoup d'associations humanitaires qui font un très gros travail. Commençons par l'Abbé Pierre, par exemple, hein, ou le secours populaire, qui font un type de travail, ce type de travail. Donc, si on avait ce genre de film avec l'écho que les films d'Elena peuvent recevoir en République tchèque, la question du gouvernement se poserait très vite. On interpellerait le gouvernement pour dire, mais qu'est-ce que vous faites? Et il y aurait des dispositions qui seraient plus ou moins prises, plus ou moins, ça c'est une autre affaire, sur l'efficacité, mais la question serait posée. Et je voulais savoir que si cette question-là, elle était posée par au niveau politique, c'est-à-dire si on interpellait les gouvernements, le gouvernement, sur cette question-là, du coup, suite au visionnage de ces films.
Film Mallory, byl promítán, byla to premiér i tehdejší předseda vlády. A on, když to viděl, se musí něco dělat s problémem osobního bydla. A moje informace jsou takové, že skutečně se v té hýbat. Tak to je taková pozitivní zkušenost, ale jinak mám pocit, že ty problémy u nás řeší spíš právě různé dobrovolnické organizace a neziskovky a než vláda jako taková. Současná vláda naše je parta populistů, který budou dělat jenom to, co se u lidí. Ty myslím, že tyhle problémy zrovna nejsou to, co by je zajímalo.
Alors, j'ai une expérience positive avec cela. Lors de la première du film Mallory, nous avons invité le premier ministre de l'époque pour le visionnage. Donc, et lorsqu'il a vu ce film, je sais qu'il a été touché et qu'il est intervenu lui-même pour que certaines choses commencent un petit peu à bouger. Mais en tout cas, chez nous aussi, comme vous l'avez dit, ce type de travail d'intervention est essentiellement assuré par des associations et divers groupements de citoyens. Pour ce qui concerne le gouvernement, c'est surtout aujourd'hui, c'est pas tellement ce qui l'intéresse et ce dont il s'occupe, parce que notre gouvernement actuel, c'est une équipe de populistes qui s'intéresse que à son propre succès et à ce qui sera intéressant pour eux. Et je pense que ce type de problème n'est pas pour eux. Ça les intéresse pas.
Ráda dodala, že na lokální úrovni je to daleko lepší. Moje dcera je na Praze 7, kde máme spíš lidí, kteří k kterým už se podařilo v rámci teda té čtvrti právě spousty sociálních problémů vyřešit, který jinak celostátně jsou problém. Takže lokální vedení může být docela úspěšné.
Mais en ce qui concerne le travail local sur place, ça se passe beaucoup mieux. Ma fille travaille avec des associations locales et avec les gouvernements locaux où les choses peuvent et sont réglées de façon beaucoup plus facile, plus efficace qu'au niveau national. Donc là, les
vous
choses
parler,
bougent.
Ada, elle veut parler, Elena, pardon de vous avoir coupé, elle veut parler local, elle veut dire au niveau de la mairie.
Au niveau de la mairie.
Au niveau de la mairie. Oui. C'est vrai qu'ils ont une mairie à Prague extraordinaire.
Oui, elle évoque sa fille, Anka, qui est conseillère municipale.
Voilà, mais c'est vrai que je peux confirmer que la mairie fait un travail très remarquable. C'est une mairie exemplaire. C'est-à-dire que sa fille, Julien, la fille d'Elena, fait le travail qui suit, qui est dans la suite du film en réalité. C'est un travail de famille.
Oui, c'est un travail de famille parce qu'elle a travaillé comme productrice aussi pour Elena.
Ano, některý produkovala Hanka.
Oui, elle a produit certains de mes films, par exemple La vie avec Kaspar.
Ah oui. Est-ce qu'on peut montrer un autre extrait, peut-être pour relancer le débat, Julien?
Vous pensiez à quel extrait?
Je ne sais pas, c'est à vous de voir.
Oui, c'est vrai, moi je pensais qu'on avait... Alors, on peut regarder peut-être l'extrait avec Mallory, qui est l'extrait numéro 5. Ouais.
Donc là, on a vu un extrait de Mallory. Ce qui me semblait très intéressant finalement dans cet extrait et dans le film plus complet, c'est que en fait, ces personnages, excusez-moi, j'appelle ça des personnages parce qu'en définitive, ils ont une densité romanesque très extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils me font penser. Plus à des romans, je pense certains romans de Dostoïevski, par exemple, des romans russes, ou des romans tchèques d'ailleurs aussi, des romanciers comme Topol, par exemple, on a cette espèce d'extrémité de la vie, ces moments les plus difficiles de l'existence, qui nous restent extrêmement mystérieux, mais on touche du doigt le mystère de l'existence, en réalité. Et c'est ça que me semble intéressant. Est-ce que vous avez le sentiment que vous donnez aux personnes que vous filmez une étoffe romanesque très, très universelle en réalité?
No tak, to zní krásně. Postavy jak z Dostojevského, to se rdím úplně dojetím. A tak... ten příběh byl zajímavý a byla nějaký přesah, abychom zdůraznili to, co na těch lidech je jenom jednotlivé nějaké příběhy, ale aby měli nějaký přesah a aby mohli nějak v nich zanechat. To je zásadní snaha moje.
Ça sonne très bien. Je rougis d'émotion à vous entendre dire cela et à comparer mes personnages à des personnages de Dostoïevski. Mais ce que je veux surtout, c'est que ces personnes, pour mes personnages, pour les héros de mes films, qu'on aille un petit peu plus loin que juste l'histoire, juste les épisodes que je raconte. Donc voilà, je veux aller un petit peu plus loin et qu'il y ait un petit peu plus de sens que juste à la juxtaposition des événements qui leur arrivent.
Oui, mais ce qui est derrière tout ça, c'est, bon, il y a la question sociale, la question politique, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y a le côté qui le spectateur ne peut pas ne pas se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de vivre, qu'est-ce que ça veut dire d'exister, comment on peut être avec sa vie. Comment on peut être avec ça? Et ces personnages-là nous posent une question très radicale et extrêmement puissante, puisque en définitive, ça nous renvoie à nous-mêmes. Pourquoi j'en suis là? Comment se fait-il que j'en suis là, que je ne suis pas comme eux, touchés par une sorte de douleur qu'ils n'arrivent pas toujours à exprimer clairement, mais on sent qu'ils les travaillent.
No tak to, kdyby mých filmů, tak bych byla teda mimořádně šťastná. Samozřejmě v to doufám. A byla bych šťastná, kdyby si diváci tyhle ty otázky pokládali. Takové ty základní otázky existenciální, kdo jsem, odkud přicházím a kam směřuju. Tak, ale tak jsem nejšťastnější člověk.
Je serais vraiment heureuse si les spectateurs, après avoir visionné mes films, se posent ce genre de questions existentielles, c'est-à-dire qu'ils se demandent d'où je viens, qui suis-je et où je vais. Je serais vraiment très heureuse si mes films les emmenaient sur ce terrain-là et s'ils se posaient ces questions-là.
Mais c'est sûr que le spectateur ne peut pas ne pas se poser ces questions-là. Ça, je suis absolument persuadé que chaque spectateur se posera la question dans ces termes-là. Pourquoi ? Parce que nous avons tous dans nos vies, dans nos familles, des proches qui ont décroché par rapport à des parcours de vie. Moi-même, j'ai dans ma famille un de mes frères, puis un oncle qui a décroché et qui sont tombés pour l'un dans l'alcoolisme et l'autre dans la drogue. Donc tout le monde a des parcours à quelqu'un auprès de lui ou proche qui a décroché. Donc ces films renvoient à ça, c'est-à-dire qu'à la question, mais et d'ailleurs on le voit chez les Strand, ils se posent des questions, ils disent pourquoi celui-là, pourquoi il est de même dans les Cosmos. Ce garçon qui va vivre avec une Espagnole, qui a déjà un fils, etc., ce n'était pas le parcours de vie qu'il souhaitait à leurs enfants. Donc, et quand on a des enfants, aussi on se pose la question. Pourquoi celui-là est plus doué, intelligent, ou au contraire, pourquoi celui-ci n'arrivera à rien, etc. C'est quand même des questions extrêmement essentielles à chacun. Et ces films, les films d'Elena, posent ces questions existentielles extrêmement profondes que nous avons tous dans l'existence.
Je vous remercie beaucoup pour cette réflexion et si vraiment vous percevez mes films comme ça ou si les gens perçoivent mes films comme ça, j'en suis vraiment très heureuse et je vous remercie.
C'est sûr que tout le monde en reçoit comme moi ou alors il faut être un âme quoi, pour ne pas recevoir comme ça.
Non, c'était juste pour dire que je souscrivais totalement à vos propos, Joël. Moi aussi, je trouve que ces films nous posent des questions qui sont tout à fait essentielles pour nos existences, quelles que soient nos situations. Et je crois que vous l'avez très bien exprimé. Et je pense que Elena répond de manière assez modeste.
Merci. Mě to teda teďka kus vypadlo, takže kus neslyšel. Ale
jenom od jaké chvíle jste neslyšela přibližně?
Už jsem nic neslyšela. Jsem šťastná a to zřejmě můj počítač neunesl tuhle informaci a spadnul. Jasně. Prostě to pojení nějak, bohužel, blbě to je. Tady mi to asi příliš mnoho chvály, opravdu.
Díky, donc la connexion, elle est vraiment pas bonne, il y a peut-être trop de compliments qui passent.
Bon, non, mais ce que je pourrais dire aussi, qu'on pourrait peut-être montrer un extrait d'un autre film, mais ce qu'on peut dire aussi, et c'est assez pour les spectateurs de Beaubourg qui vont venir voir ces films, c'est que à la fois on est extrêmement touché par ces films, on est très bouleversé, profondément bouleversé, je l'ai déjà dit, mais comme souvent dans les œuvres tchèques, il y a toujours un fil, il y a toujours une sorte d'humour, il y a une sorte de légèreté. Ce n'est pas pour rien que Kundera a appelé l'insoutenable légèreté de l'être. On retrouve ça dans les films d'Elena, par exemple, dans Annie, il y a un humour. Et quand on voit les films, même Kafka, les films les plus durs, le spectateur, il n'a pas envie de se jeter par la fenêtre en sortant. Au contraire, il se rend compte que la vie est fragile, mais que la vie est encore là. La preuve, le dernier mot, même si c'est terrible, de Kafka, c'est « elle pense à sa fille qui lui pardonnera ». Donc la vie continue, il y a beaucoup d'enfants. Et on ne peut pas être complètement désespéré quand on fait des enfants. On est bien obligé d'avoir un espoir. Et ces films-là, les films d'Elena nous montrent ça. Cette espèce d'insoutenable légèreté de la vie, cette insoutenable fragilité de la vie. Et c'est vrai, ces films nous rappellent toujours, c'est aussi une phrase de Kundera, on sait bien qu'on va mourir, on sait bien que tout a une fin. Et on vit dans une espèce d'illusion permanente, mais c'est cette illusion qui fait le sel de notre vie.
No, další krásná slova českému Kundera. Opravdu předpokládám, že můj počítač se brzo zhroutí, že takový ho nezažil.
Je vous remercie encore pour ces belles paroles et pour ces compliments. Et je pense que mon ordinateur va bientôt rendre l'âme parce qu'il n'a pas eu autant de compliments depuis longtemps.
Julien ?
Oui, je vous propose peut-être de conclure cette masterclass, sauf si Elena veut ajouter quelque chose.
Non, tak. Ještě jednou děkuji za ukázat mé filmy divákům ve Francii. Budou mě samozřejmě velmi zajímat, takže když něco bude a když mi dáte vědět, budu mít radost. A jinak doufám, že diváci a doufám, že jdeme v Centre Pompidou živě, že třeba ještě nějaký film, že budu moci být osobně přítomná a velké díky a těší mě, že jsme za hranicemi Česka a přeju vám všem vám, že hrozná doba brzo skončila, aby jsme se zase vrátili k normálnímu životu, abychom byli zdraví a samozřejmě možná, že abychom se i z té doby trošku poučili, skládali svoje noty. To si dávám jako svůj cíl.
Ben, je voudrais juste dire un petit mot à la fin, vous dire à tous que je suis vraiment ravie que mes films soient présentés en France. J'en suis très heureuse et très fière. Je serais très contente de connaître les réactions et les opinions de votre public sur mes films. Donc, faites-le moi savoir. Je serai très curieuse donc de savoir quelle sera la perception en France. Je serais aussi très heureuse si nous pouvions à l'avenir nous rencontrer en vrai. Je serais ravie de venir vous rencontrer et vous présenter mes films. Voilà, en personne. Je vous remercie pour cette occasion, pour cette rétrospective et je suis très contente que mes films dépassent les frontières de notre pays, qui sortent également à l'étranger. Et j'ai également un souhait que je voudrais partager avec vous et c'est l'espoir que cette période bizarre soit vite derrière nous, qu'on revienne rapidement à une vie normale, en bonne santé. Et je souhaiterais aussi qu'on en tire une leçon de ce qui nous arrive et de ce qui nous est arrivé pour vivre mieux à l'avenir.
Merci. Je voudrais rajouter une conclusion à la conclusion d'Elena, c'est que les relations entre la France et la République tchèque sont très anciennes et qu'on a l'habitude de voir des œuvres tchèques en France devenir très importantes. Et j'ai cité Kundera, mais on pourrait parler du peintre Kupka, on pourrait parler de la peintre Toyen, on pourrait parler d'énormément d'artistes tchèques qui sont devenus très importants pour la France. Et je pense que l'œuvre de Elena pourrait devenir, et devrait, ou doit même, et on peut remercier le centre Pompidou de cette rétrospective incroyable, parce que méconnue en France. Et donc, le centre Pompidou va donner à son œuvre une importance qu'elle mérite. Et ça, c'est très important. Et je suis presque sûr que les spectateurs vont se rendre compte à quel point les œuvres d'Elena nous sont importantes, nous sont essentielles. Et je prends un autre exemple qui est un petit livre tchèque que je voudrais citer pour conclure, qui a été traduit récemment en France, un livre d'Otto Pavel qui s'appelle « Comment j'ai vécu avec les poissons » et qui est un livre qui a été un succès très important de librairie tout seul. Et je pense que l'œuvre qui a fait son chemin et qui a touché énormément de spectateurs, alors que de la même façon, il abordait des éléments très tragiques avec beaucoup de liberté et de légèreté. Et je pense qu'il y a des correspondances entre ce livre-là et les œuvres de Elena. Donc, merci à la BPI et à Julien en particulier d'avoir organisé cette rétrospective vraiment essentielle.
Oui, alors juste deux mots de conclusion, c'est un petit peu à mon tour, pour vous encourager, puisqu'on a parlé de ces films, à les regarder. Donc les séances en général sont à 20h, elles sont gratuites, il suffit juste de s'inscrire. Donc tous les détails sont sur le site bpi.fr et également sur Facebook, sur le compte de la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Donc merci beaucoup à tous les participants, merci à Elena, merci à Joël et surtout merci à Lada, qu'on n'a pas encore remercié pour cette masterclass, puisqu'elle a fait un travail épineux, délicat, avec toute cette connexion un petit peu instable et fragile qu'on a pu connaître pendant cet enregistrement. Merci beaucoup à tous, et puis je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir les films d'Elena Treshtikova. Merci beaucoup à tous, et à très bientôt.
Merci. Merci.
Merci. Merci. Tak.